There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils, pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Vous le savez peut-être, on est en pleine semaine du podcaston et pendant ces 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts vont se mobiliser pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que le podcast Come on the Moon, que Come on the Moon tout naturellement y participe. On en reparlera en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter l'association BD Impact et notamment BD Casa, dont vous avez déjà entendu parler ici. Je vous explique ce choix parce que je travaille avec BD Casa et je trouve que Magali prône des valeurs extraordinaires avec son entreprise mais aussi cette association qu'elle a créée en lien. Tout est en lien, tout est interconnecté pour notre planète, pour l'habitat, pour le social, pour l'environnement et j'espère que ça vous touchera autant que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute.
La masse anthropique a dépassé la biomasse, ça veut dire qu'il y a plus, par exemple, de plastique, c'est quand même un truc incroyable, sur Terre que d'animaux. Voilà. Donc, rien par rapport à ça. Donc, quand tu vas plonger par exemple, il y a des. À Bali, à l'île Maurice, dans des super sites où tu crois que voilà, les cartes postales, c'est turquoise, etc. En fait, tu te retrouves avec énormément de plastique, quoi. Et donc, les poissons les mangent. les coraux deviennent noirs, ils n'ont plus d'oxygène, et les coraux, bah, on a perdu 50% de notre barrière de corail, et puis c'est le poumon de notre planète. Et donc, en fait, si l'habitat marin ou l'habitat terrestre disparaît pour notre biodiversité, eh bien, c'est toute la chaîne de valeur qui s'écroule. Et donc, c'est l'humain derrière. Et en fait, on n'a pas encore compris ça parce qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école.
Bonjour Magali, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial, de Bedicasa, ton entreprise, et de Bedimpact, ton association, parce que pour petit rappel et petite introduction, cet épisode est enregistré dans le cadre du podcaston qui met en lumière les associations de notre ligne éditoriale de podcast, et donc ça m'a paru un peu évident de te recevoir toi aujourd'hui.
Bonjour Alexane, ravie de venir à ton podcast.
Donc ma première question que je pose à tous les entrepreneurs qui viennent, c'est est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours entrepreneurial, avant aussi l'entrepreneuriat, enfin en tout cas, quelle est la genèse, pourquoi tu as eu envie de créer Bedicasa en, si je me rappelle bien, 2007?
T'as une bonne mémoire, oui. Je suis, je pense, entrepreneuse dans l'âme et dans l'ADN jusqu'au bout des ongles. Je pense que j'ai ce virus et mon frère aussi là. Et en fait, on s'est fait un peu tout seul. Et ouais, je sais pas, j'ai envie de... Quand il y a un problème, pour moi, c'est une solution qui n'a pas encore été trouvée, une opportunité à saisir et le moyen de trouver des pistes pour pouvoir le résoudre. Donc, c'est un défi, en fait, qu'on se lance. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est de l'impact positif sur la vie des gens ou sur notre planète. Voilà. Donc, il y a un maximum de problèmes dans le monde. Et pour moi, c'est bon pour les résoudre, quoi. Voilà. À notre échelle, hein, évidemment.
Je suis complètement d'accord et d'ailleurs c'est pour ça que on travaille ensemble maintenant, d'ailleurs merci encore. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? T'as toujours entrepris, t'as jamais eu de poste salarié, t'as toujours des, enfin voilà, depuis tu dis que toute petite ça t'inspire et ça, enfin voilà, c'est ça qui t'as une âme entrepreneur, ça veut dire quoi pour toi?
Alors J'ai été salariée et très, très engagée dans mes entreprises. Et en fait, mon problème, c'est que je fais toujours plus que ce qu'on me demande. Et donc, du coup, je sors du cadre. Et parfois, ça ne plaît pas parce que je suis pas dans le cadre. Mais le cadre est important pour pouvoir avoir une direction. Mais en fait, après, c'est mon avis. Je pense que... Je pense qu'on est trop cloisonné en fait en tant que salarié et qu'il y a un blocage de communication. C'est trop opaque en fait entre les différents services. Et donc moi je l'ai vécu dans plusieurs entreprises dont une ETI. Et donc je pense que c'est pas la bonne façon de gérer les situations et puis voilà, d'aller dans le même sens. Parce qu'en communiquant mieux entre différents services, et finalement, l'entreprise, elle fait des économies de coûts incroyables, puisque les gens, à la place de se dire, de s'envoyer des mails un peu politiques ou, tu vois, conflictuels, ils vont plus aller dans la direction de résoudre le problème ensemble ou de construire le projet ensemble. Et bon, moi, je trouve que c'est... En fait, il y a énormément de réunions. Moi, je pense qu'il y a peut-être... 50% de réunions dans les entreprises qui ne servent à rien ou sinon qui n'aboutissent à aucun plan d'action. Et donc, c'est juste pour montrer qu'on sait faire quelque chose. Mais à la fin, il n'y a pas de plan d'action. Donc, s'il y a une réunion où il n'y a pas de plan d'action, pour moi, ce n'est pas efficace du tout. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, moi, j'ai cette fibre entrepreneuriale qui fait que j'ai créé... très rapidement Bedicasa suite à mes différents voyages et puis après des associations et puis j'ai créé aussi Union Web, l'association qui fédère les indépendants dans le web aussi, voilà, puis maintenant je suis à fond pour la nature et l'environnement parce que y a des enjeux qui sont colossaux, quoi, et qu'on doit œuvrer à notre échelle pour les résoudre.
Ok. Donc en 2007, tu t'es dit, bon, je voyage beaucoup, je vois les différentes cultures, je réalise à quel point il y a un vrai besoin de remettre au cœur l'habitant, l'habitat, et que l'habitat individuel peut avoir un impact sur notre planète. Et du coup, tu t'es dit, je vais créer Medicasa. C'était, pour rappel, un an avant le gros mastodonte Airbnb. Comment tu as eu cette idée? Comment tu as eu cette envie?
Alors, à l'époque, j'étais pas du tout au fait, j'avais pas du tout pris conscience des enjeux environnementaux. Donc, pour moi, c'était pas l'habitat, c'était plutôt l'habitant, et c'était découvrir des cultures chez l'habitant, en étant vraiment en immersion totale. Et moi, je l'ai fait dans différents pays, et en France, beaucoup en France, mais également en Espagne, en Italie, quand on pouvait... voyager encore, puisque là aujourd'hui je réduis drastiquement mes voyages dus aux émissions de gaz à effet de serre que ça génère. Mais avant, c'est vrai que j'avais fait une soixantaine de voyages parce que j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait, de ce qui allait se passer, de ce qui était déjà en cours. Et en fait, c'est parce que je suis allée chez l'habitant via du coach surfing, via des associations pour mon travail. Donc je travaillais 10 mois sur 12 à l'étranger. J'étais responsable marketing d'une marque qui s'appelle Pink Lady, une marque de pommes. Et donc voilà, je faisais 10 mois sur 12 à l'étranger. Donc j'étais en Espagne, en Italie, à Chypre, en Russie, au Portugal. J'en avais marre d'être dans les hôtels. J'avais envie de découvrir la vie du pays parce que je faisais que de la scanner, en fait. Et pour moi, c'était pas ça, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis allée chez l'habitant, en Bed & Breakfast notamment. Donc, okay. Du coup, ça m'a permis de créer le blog.
Pardon. Ok. Ah oui, donc du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que marre des hôtels, tu vas chez l'habitant parce que tu décides de voyager autrement, même pour le boulot. Et c'est là que tu crées un blog pour parler de tout ça et qui te donne envie de créer par la suite Medicasa, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est là-dessus que j'ai créé sur WordPress. J'ai rassemblé toutes les adresses chez qui j'avais séjourné. Et donc, du coup, ensuite, la communauté s'est fait d'elle-même. Donc, je me rappelle que j'avais des Marocains vraiment adorables qui parlaient de recevoir avec les traditions marocaines. Tu connais une culture, les Russes aussi. Il y a énormément de choses à savoir sur les Russes encore. Bon, maintenant, il y a le filtre des médias et moi, j'ai connu des choses incroyables. Je suis allée aussi dans le Dakota du Sud, dans un tipi à moins 35 degrés dehors, plus 45 à l'intérieur. J'ai vécu la cérémonie des Lakota, les Indiens d'Amérique. Enfin, j'ai vécu des trucs incroyables. Et en Asie aussi, au Japon, dans les Minshuku, les Ryokan, il y a des traditions aussi qui sont incroyables, mais aussi au Canada et aussi en Espagne avec la danse, la salsa où j'ai pris des cours, aussi à Cuba, la salsa cubaine, ça vient de là-bas. Enfin voilà, donc en fait moi c'est ça qui m'a vraiment drivée, c'est le fait d'être enrichi comme ça culturellement et de... d'apporter aussi quelque chose aux gens, parce que même en France, en fait, rien que dans les pays, on se rend compte qu'on a, avec les réseaux sociaux, une solitude qui fait qu'il y en a qui ont besoin, en fait, de se sentir responsable d'autres personnes, ou ça peut être aussi d'animaux, hein. Et moi, j'ai beaucoup de personnes chez Medicasa qui veulent se responsabiliser, qui sont en deuil, qui sont séparées ou qui sont toutes seules. En fait, ça leur apporte beaucoup socialement et psychologiquement parlant. Donc, c'est clairement un apport financier, parce que ça permet de payer tes factures, de te faire un petit resto à la fin du mois, des choses comme ça. Mais c'est aussi un apport émotionnel pour certains, encore plus maintenant avec ce qui se passe. Et puis voilà, on est énormément. Enfin, là, aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète. En 2050, on va être 10 milliards. Donc voilà, il faut qu'on... on apprenne à vivre les uns les autres et à s'organiser autrement, quoi.
Complètement. Donc, tu crées ce blog, une grosse communauté arrive de plus en plus. Là, tu décides de créer Medicasa. Donc, on est 2007, 2008, peut-être. Donc, Airbnb arrive. Est-ce que tu peux nous parler de l'après ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bedicasa ? Enfin, voilà, comment tu les, la communauté a augmenté ? Comment tu as voulu créer vraiment ce business model, etc.
Alors, en fait, elle a augmenté naturellement, lentement, ce que je voulais. Si tu veux, ils se sont invités les uns les autres et donc ils me disaient ah bah j'ai ma voisine, ah bah je connais mon cousin qui loue, donc ça s'est fait comme ça en fait, vraiment. Et moi je voulais pas de publicité, et mais bon après si tu veux, pour développer l'activité il faut faire parler de soi, donc c'est là que j'ai commencé à lever des fonds, que j'ai découvert les levées de fonds. Et que je me disais que c'était essentiel pour payer les premiers salariés, parce qu'en fait, quand on est dans une activité qu'on appelle B2C, business to consumer, c'est-à-dire dirigé aux particuliers, on doit avoir une offre importante pour que ça corresponde à la demande. Et donc, du coup, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Il faut un maximum d'offres pour que ça corresponde à la demande, et cette offre, elle est en demande sans... constante, quoi, sur le site, comment améliorer son annonce, plein de questions par rapport au modèle économique et puis aux fonctionnalités du site, tout simplement. Ils ont besoin d'être rassurés. Et donc, c'est comme Blablacar. Blablacar, ils ont eu besoin d'une flotte de conducteurs pour pouvoir attirer des passagers et vice versa. Mais en fait, s'ils n'ont pas les conducteurs, ils n'auront pas de passagers. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont levé 100 millions. Moi, je n'ai pas levé 100 millions. J'ai toujours levé moins que ce dont on avait besoin. Parce que, voilà, je suis... Enfin, il faut le dire, hein. Désolée, mais c'est encore vrai. Je suis une femme, je crois que ça se voit. Et malheureusement, 2023, mais c'était encore pire à l'époque, mais c'est tout ça avancé très lentement. Je me suis fait fermer des portes et puis, voilà, je me suis pris des réflexions... parce que je suis une femme entrepreneuse du sud de la France, voilà, et donc du coup, j'étais pas crédible, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu. J'ai levé les fonds, j'ai levé les fonds, 3 millions au total, mais pas suffisamment par rapport aux besoins de l'entreprise, face au basse au monde, comme tu dis.
Non, mais c'est
hyper intéressant. Et ça nous a pas empêché d'être ensemble.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, on voit que les startups fondées par des équipes 100% féminines sont 4,3 fois moins bien financées qu'une équipe masculine. Donc, tu es en train de prouver en fait ce qu'on disait dans l'épisode justement qu'on a sorti pour la journée internationale des droits des femmes. Et c'est malheureux de le voir qu'encore aujourd'hui, c'est le cas, quoi.
Ouais.
Mais bon. T'as réussi quand même à avancer, t'as réussi à quand même développer Bedicasa à ce moment-là, à lever quand même des fonds. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Après cette levée de fonds, t'as pu augmenter ton équipe ? Je crois que vous êtes arrivé jusqu'à 30 personnes, il me semble.
Oui, on est petit à petit, on est arrivé jusqu'à 30 personnes et j'ai levé en plusieurs temps et chaque année, en fait, je relevais. Donc, au total, c'était 3 millions et on a réussi à faire 4,5 millions de volume de réservations. On était dans 180 pays, on avait 68 000 hébergements, 400 000 membres. Et en fait, on est arrivé, on n'était pas encore rentable, mais on allait l'être. On ne l'était pas parce qu'on réinvestissait pour développer plus de fonctionnalités, plus de pays. Donc, du coup, ça demandait de la main-d'œuvre. En fait, on est devenu rentable un peu avant que je quitte l'entreprise. Moi, c'était mon objectif. J'ai quitté l'entreprise pour divergence de valeur avec mon principal fonds d'investissement. Voilà. Et puis, du coup, je l'ai reprise 3 ans plus tard après qu'un deuxième investisseur ait liquidé la boîte. C'est une histoire assez mouvementée.
Tu as envie de nous en dire plus à ce sujet, notamment je sais qu'à cette période-là, tu étais enceinte. Est-ce que tu veux nous en dire plus ou est-ce que tu préfères que ça reste plus confidentiel ?
C'est tu sais, c'est un peu le classique, si tu veux, quand le deuxième investisseur a repris Bédicassa, il avait une direction différente de la mienne, ce qui est quand même assez normal dans 80% des cas. Hein. Et bon, après, je suis tombée enceinte et j'ai fait le job jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et quand je suis revenue, il m'a dit que ma présence était de trop, quoi. Donc, très peu élégant. Et pour moi, c'était pas. Enfin, voilà, c'était la goutte d'eau et je ne me voyais pas rester dans cette entreprise dans laquelle, que je ne reconnaissais même plus, quoi. L'âme, elle était partie. Donc, quand on me dit ça, voilà, c'était pas. Pour moi, la priorité, c'était mon enfant. Basta, quoi. Mais bon, j'en veux pas. Enfin, en fait, ces expériences, si tu veux, ce que j'ai vécu avec ces deux investisseurs, hein, l'un après l'autre, ça a été très dur. Mais je reste pas là-dessus, en fait. Je reste pas sur le passé. Et pour moi, peut-être que s'ils avaient pas été là, j'aurais pas eu ce feu en moi, cette niaque pour pouvoir tout reprendre et me battre pour tout reconstruire. Donc, quelque part, finalement, je les remercie. Pas de leur comportement, mais d'avoir été là à ce moment-là. Bon, ça m'a. Tu sais, ça fait perdre du temps, c'est jamais agréable. Mais je sais pas, peut-être que ça fait partie aussi du processus. Ouais.
Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu dis que la communauté t'a appelé pendant 3 ans pour reconstruire Bédicassa après justement cette liquidation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, en fait, j'ai pas arrêté de recevoir des messages, quoi. Enfin, il n'y avait pas un seul jour où je ne recevais pas un message parce qu'ils étaient obligés du coup d'aller ailleurs et que ailleurs ça leur convenait pas idéologiquement, quoi. Et donc du coup ils me demandaient si j'allais reprendre à un moment donné. Moi c'était très compliqué de reprendre parce que légalement j'avais pas encore le droit puisque l'entreprise était en cours de liquidation. Puis tu sais que une liquidation ça peut prendre 1 an comme ça peut pas en prendre 10, quoi. Donc tant que la liquidation n'est pas clôturée, je ne pouvais rien faire. Donc, moi, je me suis formée en programmation web dans l'espoir de le reprendre un jour, mais je ne savais pas quand. Et entre-temps, j'avais créé un autre site, quoi. Donc, pour moi, c'était logique de me former, en fait, sur un cœur de métier comme tu vas dans ta boulangerie. Tu as un boulanger qui connaît très bien comment fabriquer son pain. Bon, pour moi, c'était logique de savoir comment ça se passe derrière, quoi, comment développer un site. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait.
On en parlera un petit peu plus de cette programmation web qui est le no-code et qui du coup est aujourd'hui le maître mot en fait du site de Bédicassa, mais aussi des autres sites que tu as fait. Est-ce que tu peux nous dire justement, tu me dis en parallèle, tu avais monté un autre site, qu'est-ce que tu avais créé du coup en parallèle avant de relancer Bédicassa?
Alors, en fait, c'était entre Bédicassa 1 et Bédicassa 2. J'ai créé Bédilingua, qui était un site de séjour linguistique dédié aux familles et ouvert pour que tout un chacun, que ce soit étudiant ou senior, puisse aller chez des familles en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, pour apprendre une langue. Donc, ça, c'était Bédilingua. Quand je suis partie de Bédicassa, j'ai créé Léona, qui était une marketplace de tourisme local et que je voulais reprendre pour faire évoluer. Et ça, je l'ai créé au sein de l'entreprise Wonderbox. Où là, j'étais intrapreneuse. Voilà. Okay. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai développé, je l'ai fait développer. C'est là que j'ai commencé à découvrir le no-code, voilà, et de me dire que j'allais certainement l'utiliser soit pour Léona, soit pour Bédicassa. Et j'ai repris les deux, en fait. J'ai repris aussi les droits de Léona.
Ok. Donc, une fois que ça s'est arrêté avec Wonderbox, tu as quand même racheté les droits pour pouvoir continuer Léona, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et pourquoi ça s'est arrêté avec Wonderbox?
Covid. Ouais. Alors là, c'est... Parce que, on avait 1000 offres et ça commençait à prendre, mais le Covid est arrivé et pam, donc on a tout arrêté.
Ok. Est-ce que tu comptes du coup relancer Léona par la suite?
Oui, c'est à envisager, mais ça me prenait déjà énormément de temps. Donc, j'avais prévu avant, mais on prévoit toujours, on est toujours un peu plus optimiste. Que... Ouais, mais on va le faire petit à petit.
Ok. J'aimerais qu'on parle maintenant de notre sujet de prédilection pour cet épisode, l'association, et on reviendra, de toute façon, on fera des boucles puisque tout est étroitement lié avec Bedi Casa. Est-ce que tu peux nous parler du coup de Bedi Impact?
Oui, tout à fait. Alors, Bedi Impact, du coup, la mission principale, c'est de lutter contre le réchauffement climatique et de restaurer la biodiversité. Et le constat, c'est que, on souhaite le faire via l'habitat. Donc, tu l'as dit en tout début de podcast, dans ton introduction. Donc, le slogan, c'est l'habitat au service de notre planète. Pourquoi ? Parce que depuis des décennies, les hommes, les femmes, on a construit notre confort autour de l'habitat. Et donc, on a créé des équipements, des structures... des choses qui nous rendent la vie plus facile et donc du coup on est plus confortable dans nos logements, donc encore plus dans les pays occidentaux, sauf que dans le même temps on a aussi contribué sans vraiment s'en rendre compte à détruire l'habitat de notre biodiversité en construisant cet habitat pour nous, ce confort de vie. Et en fait, si on revient en arrière en 1800, si tu veux, on avait 6 villes de plus de 200 000 habitants. Et en fait, c'est à partir de 1800 que les choses se sont emballées, parce que le progrès faisait qu'on mourait plus tard, il y avait plus de naissances, donc du coup, il y avait plus en plus de monde. Et le progrès technologique a fait qu'on a de plus en plus construit au détriment de notre biodiversité. Et donc, ce qui fait que, tu sais qu'aujourd'hui, on est en 2023, et tu sais combien on a de villes de plus de 200 000 habitants ?
Non, mais tu vas me le dire.
Alors, en fait, c'est 600. Et ce n'est pas de plus de 200 000, c'est plus de 1 million d'habitants. On a 600 villes de plus de 1 million d'habitants. Et c'est quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire qu'on est plus de 60% de la planète. C'est 4,5 milliards de personnes à vivre dans les villes. En fait, les villes attirent, sont très attractives, puisque c'est là qu'il y a l'emploi, c'est là qu'on trouve tous les services médicaux, sociaux, culturels, et c'est là aussi qu'on se réalise, quelque part. Et donc, du coup, même culturellement parlant, quand tu es enfant et que tu commences à être ado, et puis que tu commences à construire ta carrière, eh bien, si tu veux, tu te dis, même inconsciemment, que tu vas partir de ton nid familial pour aller dans une ville, si tu ne l'es pas, ou peut-être même dans une autre ville, donc déjà pour tes études, parce que ça correspond à tes études, mais aussi pour la réalisation de toi, de ton toi, quoi. Ça fait bien, en fait, d'être dans une ville pour pouvoir se développer, et on se dit, on a réussi parce qu'on est parti dans une ville, tu vois. Quand tu restes à la campagne, psychologiquement, t'as pas réussi, tu vois, quelque part. Et donc ça, c'est un biais que l'on a, nous les humains, depuis à peu près 200 ans. Et ça fait 200 ans que les choses s'emballent, que là, on est 8 milliards sur la planète, je le disais tout à l'heure, on va être 10 milliards en 2050, et bien, du coup, la masse anthropique a dépassé la biomasse, ça veut dire qu'il y a plus, par exemple, de plastique, c'est quand même un truc incroyable, sur Terre que d'animaux. Voilà. Donc, rien par rapport à ça. Donc, quand tu vas plonger par exemple, il y a des... à Bali, à l'île Maurice, dans des super sites où tu crois que, voilà, les cartes postales, c'est turquoise, etc. En fait, tu te retrouves avec énormément de plastique, quoi. Et donc, les poissons les mangent, les coraux deviennent noirs, ils n'ont plus d'oxygène, et les coraux, on a perdu 50% de notre barrière de corail, et puis c'est le poumon de notre planète. Et donc, en fait, si l'habitat marin ou l'habitat terrestre disparaît pour notre biodiversité, eh bien, c'est toute la chaîne de valeur qui s'écroule. Et donc, c'est l'humain derrière. Et en fait, on n'a pas encore compris ça parce qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école. Parce qu'on n'a pas de cours. Tu vois, si tu te rappelles tes cours de biologie, Bah, moi, mes cours de biologie, c'était théorique, hein. J'allais pas dehors dans les champs ou en forêt pour comprendre ce que c'était qu'un champignon et que le champignon, il peut contribuer à la dépollution des sols. Tu vois, je savais pas faire la différence entre un champignon vénéneux et un champignon non vénéneux, par exemple, tu vois. Et puis les oiseaux, c'est pareil. Donc les oiseaux, on en a besoin, et les oiseaux, on est très content de partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, ou même chez nous, hein, écouter les oiseaux parce que ça nous apaise. Et bien demain, ils peuvent disparaître parce que la prochaine extinction de masse qui est en train de se produire, c'est l'extinction des insectes et que c'est leur nourriture. Et l'habitat des oiseaux, eh bien, c'est les petites alcôves qu'ils avaient dans nos maisons, les immeubles d'antan, qu'aujourd'hui on n'a plus. Tout est lisse, donc du coup, ils n'ont plus d'habitat. Et, ils n'ont plus d'insectes dans les campagnes, même dans les villes. Et puis,
il y a quand même quelques actions qui sont mises en place, mais les gens ne sont pas du tout au courant. Là, par exemple, cette année, l'année dernière, j'ai appris que c'était interdit sous peine d'amende d'enlever les nids des hirondelles. Les hirondelles, elles se mettent dans les fenêtres. Et c'est ma voisine qui m'a appris ça. Et elle me dit, les gens qui font ça, normalement, ils ont une amende. Je dis, mais en fait, les gens ne sont juste pas au courant.
On n'est pas au courant.
Ils les enlèvent parce qu'ils pensent qu'en fait, elles ne sont pas au bon endroit. Alors que si, elles viennent et puis elles s'en vont. Elles migrent, je crois, pendant 6 mois dans l'année, et puis elles reviennent après, et si elles n'ont plus leur nid, et ben elles meurent.
Tout à fait.
Et en fait, y a des amendes qui sont mises en place, mais en fait, les amendes ne sont pas données, puisque personne n'est au courant que les gens enlèvent les nids. Donc, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Donc, en fait, on les fait disparaître petit à petit, effectivement.
C'est comme les feuilles, ou systématiquement, ou les lagages. Là, on est en plein dedans. Moi, ce matin, je suis sortie de chez moi, je suis allée dans le jardin collectif et je me suis encore énervée. Il doit me prendre pour une relou, mais en fait, c'est les petits gestes qui font avancer les choses parce qu'on a mis en place avec des voisins des nichoirs, des abreuvoirs via l'association. Et puis, l'autre jour, ils m'ont coupé une branche et c'était une branche morte, mais en fait, la branche, elle servait pour l'abreuvoir des oiseaux. Donc, je me suis énervée, puis là, je me suis encore énervée ce matin parce qu'il commençait à souffler les feuilles, ça sert à rien, en fait, ce truc de souffleur.
Oui.
C'est une ânerie sans nom. C'est les gros souffleurs qui polluent. Alors, c'est que du négatif. Ça pollue. C'est au-delà des décibels recommandés. Donc, ça t'énerve. Donc, quand t'es à côté, tu sens ton stress monter parce que t'entends le truc, le souffleur. Et en fait, ça a aucun intérêt, quoi. Ça pue le gasoil. Et du coup, ça enlève les feuilles. En fait, les feuilles des arbres permettent la régénération. Et puis, le fait d'avoir autant de bruit fait fuir les oiseaux. Et donc, les oiseaux qui sont en pleine reproduction, ils ne se reproduisent plus. Et ça dure 2-3 mois comme ça, où ils viennent, ils élaguent. Donc, c'est pareil, quand tu élagues trop un arbre, les oiseaux, ils ne peuvent plus faire de nid. Et puis, eux, ils élaguent carrément, ils enlèvent les nids, quoi. Tu vois ? Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce que, en fait, c'est des jardiniers et normalement, et dans toutes les villes de France et du monde, c'est comme ça. Hein. Ils sont là pour justement apprendre un métier, apprendre à bien le faire. Mais en fait, ils exécutent juste des ordres et en fait, derrière, si tu remontes la chaîne, les ordres, ils sont pas bien donnés parce que la personne, elle est derrière son bureau et elle donne un ordre et en fait, elle n'y connaît rien. Et donc, elle va dire, élaguer. Donc, le gars, il est là, il élague et il enlève tout. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai créé Bed Impact. Parce que ma cousine, elle est hydrologue. Donc, hydrologue, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et je suis hyper proche d'elle. Et à un moment donné, elle m'a expliqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai eu une révélation. Et bon, après, j'ai écouté plein de podcasts et j'ai pu contacter énormément de personnes, des botanistes, des hydrologues, des écologues, des ornithologues. Et j'ai découvert, en fait, de nouvelles professions qu'on connaît tous, mais qui sont cachés, parce qu'en fait, c'est scientifique. Donc, hydrologue, elle est spécialiste de l'eau. L'eau, on en a besoin aujourd'hui. Là, tu vois, hier à Cahors, tu t'es rendu compte que l'eau était polluée. Et donc, du coup, la population, ils ont été obligés de distribuer de l'eau qui venait d'ailleurs, parce que l'eau de pluie qui retombe dans la rivière est polluée. Et pourquoi elle est polluée ?
À cause des avions.
Mais c'est comme... En fait, c'est le cycle de l'eau qui est complètement perturbé, notamment par les pesticides et notamment le glyphosate. Et en fait, tout ça, ça retombe chez nous et on ne le sait pas. On n'est pas au courant. Et en fait, la première des choses à faire, pour agir, c'est de comprendre et c'est d'avoir l'information. Et c'est pour ça que j'ai créé Bed Impact, donc B-E-D-Y-I-M-P-A-C-T, donc de bed, le lit en fait. Y, c'est le grec, Y espagnol, et impact. Donc, on va avoir un impact sur le lit, donc là où dorment, hein, tu vois, sur l'habitat de notre biodiversité. Tu vois, en gros, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on réunit tout ce collectif de scientifiques, mais également des éco-citoyens, parce qu'à travers Bedicasa, donc Bedicasa qui est la plateforme d'hébergement chez Habitant, nous, on a plein d'hébergeurs qui mettent en place chez eux eh bien, des astuces pour recycler l'eau. Et en fait, ça économise pour avoir une économie d'énergie, pour utiliser des chauffages, des data centers qui les transforment et en fait des chauffages. Enfin, en fait, il y a plein de petites astuces comme ça qui te permettent d'atteindre petit à petit l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Et en fait, on a tous besoin de faire ça. Parce que si demain, on ne peut plus boire l'eau potable comme ce qui a été le cas à Cahors, mais Cahors, ça a juste été médiatisé un tout petit peu, mais c'est le cas pour d'autres villes aussi, bien comment on va faire quoi ? Enfin, tu vois, on n'est même pas capable de savoir comment on cultive des tomates, comment on cultive des citrons, comment on cultive, tu vois. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est juste qu'on n'est pas dans ce système-là. On nous a pas appris à le faire, donc on est comme des gamins, quoi. On revient à zéro. Mais il faut le faire. Et donc, du coup, ces scientifiques, le problème, c'est qu'ils restent cachés. Ils ne sont pas dans le marketing, ils ne sont pas dans la com. Ils font leur boulot de leur côté au sein de syndicats de rivières, au sein de structures, tu vois, privées ou sinon publiques, mais ils vont communiquer leur rapport, mais pour une niche, quoi, pour des personnes averties, pas pour le grand public. Et c'est bien ça, le problème. Donc, en fait, nous, on essaye de les faire ressortir pour qu'ils transmettent l'information aux adhérents et même, du coup, plus avec Bedicasa, puisque c'est une plateforme d'hébergement chez l'habitant éthique et responsable. Et donc, du coup, bah, tu touches plus de gens. Voilà. Et ensuite, c'est de proposer des ateliers éco-citoyens sur l'eau, les coraux, la permaculture, les arbres, les plantes. Tu vois comment ça fonctionne, en fait. On propose aussi des refuges pour biodiversité, pour ramener les oiseaux et également les insectes qui disparaissent. Et c'est 50% des oiseaux qu'on a perdus en 50 ans en Europe et 70% en Île-de-France, à cause des pesticides, mais également de la pollution sonore et visuelle dans les villes. Et puis du matériel écologique à prix réduit pour mieux équiper son logement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-habitat à différents niveaux. Voilà, c'est ça l'objectif de cette association. Donc, on va le faire petit à petit, mais on ne va pas lâcher, quoi.
Ok, c'est super. Et je crois que, du coup, c'est relié aussi à Bedicasa, comme tu disais, avec, justement, un programme que tu as appelé Bedi Impact, qui sortira très prochainement. Donc, je tease un peu. Je ne sais pas si tu avais envie d'en parler, mais je pense que c'est important que chacun sache que chaque petit pas et chaque petite action a un impact sur la planète, quelle minime soit-elle, quoi. Rien que le fait de trier ses déchets, rien que le fait de ne pas jeter un mouchoir par terre parce qu'il met X années à se résorber, ouais. etc., quoi.
Oui, c'est ça, en fait. Moi, je pense que les modèles actuels des sociétés sont obsolètes. Donc, on a basé notre modèle sur le PIB, qui est un indicateur des années 30, qui a été mis en place par un économiste russe, américo-russe, je crois que c'est Simon Kuznets, ça y est, ça m'est revenu, Simon Kuznets en 1936. Et en fait, cet indicateur, le PIB, produit intérieur brut, cela permettait à l'époque d'évaluer les conséquences de la Grande Dépression américaine. Et donc, c'est arrivé en France et en Europe en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, pour évaluer les conséquences financières de la guerre. Donc, c'était un indicateur, si tu veux, très concret et essentiel pour évaluer cela. Mais le PIB n'a jamais, jamais pris en compte, je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais moi, je ne le savais pas, il y a encore un ou deux ans. Et en fait, ça ne prend pas en compte toutes les autres valeurs que peuvent apporter l'humain et la nature. C'est-à-dire, Ça ne prend pas en compte le travail effectué de toutes les associations. Ça ne prend pas en compte le travail à domicile. Donc, toutes les nounous, les aides-soignantes, etc., les personnes qui viennent aider les personnes âgées, ça ne prend pas en compte. Ça ne prend pas en compte les ressources naturelles dont on a extrêmement besoin pour développer nos industries, notre agriculture, notre habitat. Donc, en fait, tout ça, ça se ressent ensuite dans les entreprises, dans les bilans comptables des entreprises. Si tu veux, à la fin de ton bilan, tu as ce qu'on appelle un EBITDA, qui est relatif du coup à la performance financière des entreprises, mais c'est purement financier. Donc c'est très bien, mais on manque aujourd'hui d'un autre indicateur qui est l'humain, le social, et un troisième indicateur qui est l'environnement, la nature. Et c'est là qu'aujourd'hui on voit apparaître, mais c'est pas récent, hein, ça fait plus de 50 ans en fait qu'on avait parlé grâce au rapport Meadows à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est, si tu veux, le GIEC et tous les scientifiques qui commencent maintenant à communiquer en parlent de plus en plus et les entreprises maintenant s'en emparent, mais c'est encore une petite niche. En fait, c'est la comptabilité triple capital et le fait que la société soit à mission. Donc, la comptabilité triple capital, pour faire court, c'est évaluer financièrement, donc un indicateur financier, mais également social et environnemental. Et là, tu boucles la boucle. Et là, au moins, c'est complet, à 360. Ce n'est pas juste une partie de l'iceberg, c'est tout l'iceberg, tu vois, que tu traites. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Bedicasa. Et Bedi Impact, l'association, va nous aider à le mettre en œuvre, parce que, mais pas que Bedi Impact, on a tissé un réseau d'associations sur donc qui sont liés au social et à l'environnemental. Donc très concrètement, le social chez nous, c'est de proposer des logements. Donc on a des logements éthiques, on a des logements durables et on a également des logements solidaires. Donc les hébergeurs du réseau Bedicasa sont prêts à faire un effort pour accueillir des personnes qui n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes du fait qu'on est trop nombreux, mais également du fait du développement des locations touristiques à courte durée qui fait qu'on enlève du parc locatif des pans entiers d'appartements. Donc, ça empêche les gens de se loger. Et donc, du coup, la chambre chez l'habitant ou l'appartement occasionnel permet de combler ce manque. Et donc, du coup, les hébergeurs vont proposer des prix plus sympas à des étudiants, à des personnes en reconversion professionnelle, mais également à des freelances qui n'ont pas forcément les fiches de salaire. Tu vois, quand tu déménages, il y a 9% de déménagement par an. En France, quand tu déménages dans une grande ville, tu as besoin de la visiter, tu n'as pas forcément les moyens de te payer un hôtel et de revenir à chaque fois. Bah là, si tu as une chambre chez l'habitant ou un appartement dans lequel tu peux aller, bah tu peux découvrir la ville, tu peux t'informer sur les services à proximité, faire des visites d'appartements, etc. Donc, et même pour les hôpitaux, quand tu vas reprendre, tu as besoin d'aller voir un ami ou un de tes proches qui est à l'hôpital, il y a une chambre chez l'habitant, un appartement comme ça en résidence principale. Quand l'hébergeur n'est pas présent, tu vois, qu'il soit ou pas présent, après, tu fais ta sélection sur le site. Ça, c'est aussi un de nos atouts. Eh bien, ça te permet vraiment de te soulager, hein, tout simplement, et donc de répondre à un besoin social. Donc, c'est ça qu'on propose au niveau social. Et derrière, si tu veux, on est en train de monter un club. Donc, c'est tout le nouveau modèle économique de Bedicasa. C'est que ce club va permettre de faire la jonction entre toutes ces associations sociales et environnementales. Donc, ce que je t'ai dit avant, hein, donc c'est ces scientifiques qui sont dans les associations qui œuvrent pour, par exemple, tu vas en Méditerranée et tu vas participer à une plongée qui va permettre de reconstruire les coraux de Méditerranée. Bah ça, on ne sait pas. Hein. Eh bien, si ça existe, tu vois. Et donc, du coup, bah nous, on fait cette association. C'est ce partenariat avec cette association. Et de la même façon, tu peux apprendre qu'est-ce que ça veut dire replanter un arbre et puis quelle sorte d'arbre il faut replanter et quel bénéfice ça a pour l'homme. Pareil pour les plantes, pareil pour les coraux, pareil pour les animaux, pourquoi on a besoin des animaux, tu vois. Et en fait, c'est tout ça qu'on essaye d'apporter au club qu'on est en train de construire. Et donc, du coup, il y a des abonnés au club, particuliers et ou entreprises. Et donc, via cet abonnement, eh bien, l'abonné a des réduction, des avantages en nature sur Bedikassa, et également des avantages parce qu'il participe, à résoudre ses problèmes sociaux et environnementaux grâce à ce club. Et donc, il peut aussi l'utiliser dans sa communication si c'est une entreprise, par exemple, mais également autour de lui. Et puis, bah, lui, avoir des informations essentielles pour même sa survie, quoi. Voilà, donc c'est très clair. En fait, moi, je pense que les entreprises aujourd'hui, elles doivent retravailler leurs produits et leurs services et en plus aller au-delà et tendre la main à ces associations qui n'ont pas forcément les moyens de se développer, mais voilà, de les faire connaître et d'associer toutes les parties prenantes de leur entreprise. Donc, en fait, pour moi, une entreprise, c'est aujourd'hui, on doit pouvoir former ses collaborateurs, par exemple, à tous ces cours en fait, qu'on n'a pas eu à l'école. Et donc, comme l'école, ce n'est pas demain qu'on va avoir un changement de programme et qu'on va avoir des cours sur les courroux, les oiseaux, les insectes, les plantes, les arbres, eh bien, on le fait nous. Et je pense que l'entreprise, en fait, elle va 10 fois plus vite que le public et que le corps législatif, parce que ça suive derrière, vas-y. Et puis que les politiques aussi, quoi. Donc, je pense que c'est via l'entreprise, c'est vraiment, ça doit venir de l'offre. Et tu vois, le Covid, quand on a eu le confinement, eh bien, on a été obligé de s'adapter. Et du jour au lendemain, on n'a plus de hamburger et on n'a plus mangé de hamburger. Eh bien, on s'est adapté. On a acheté des cookéo, on a fait notre cuisine nous-mêmes. Enfin, je veux dire, pas tous ont acheté, mais on a dû s'adapter, quoi, tu vois. Eh bien, c'est pareil. Pendant deux mois, on a revu la nature dans nos villes. Elle est revenue, notre nature, tu vois. La nature reprend ses droits. Donc, laissons-la tranquille, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un non-sens en fait de continuer dans cette direction avec des modèles de société qui ne sont plus adaptés à nos enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, on a tout notre rôle à jouer là-dedans. Voilà, donc c'est la grande mission du club Bedi Impact. Et donc, c'est pour ça qu'on a une association qui est indépendante et on a l'entreprise Bedikassa, qui est une entreprise à mission d'économie sociale et solidaire, donc on reverse 50% dans la mission de nos dividendes, on a une gouvernance partagée, donc voilà, on est entre l'entreprise, parce qu'on est lucratif, évidemment, pour pouvoir se développer, mais on est également social, environnemental, et on met en place ce nouveau modèle avec cette nouvelle comptabilité et qui est pas évidente à mettre en place parce qu'elle sort complètement du cadre, mais qui est essentielle pour notre avenir. Voilà.
Donc, je voulais rajouter, si vous voulez aider Bedikassa, vous pouvez faire plusieurs actions déjà, parce que effectivement, comme tu l'expliquais, les hébergeurs et les appréciateurs, les voyageurs peuvent contribuer à Bedikassa. Donc, vous pouvez déjà répertorier votre logement en tant qu'hébergeur sur Bedikassa, si vous avez votre logement qui est déjà sur une autre plateforme. Vous pouvez, en tant que particulier, si vous n'avez pas de logement à proposer, venir apprécier les offres et aussi passer par Bedikassa pour vos réservations de vos prochains voyages, quelle que soit la raison. Vous pouvez aussi vous inscrire au Club Impact qui va sortir très, très, très prochainement, qui est en lien avec Bedi Impact et qui pourra vous permettre de participer à des ateliers, comme disait Magali, de promouvoir ces causes sociales et environnementales, d'aider à faire connaître un petit peu plus tout ce qui est en lien avec ce que les scientifiques aujourd'hui n'arrivent pas forcément trop à communiquer pour nous aider et pour aider notre planète à survivre et à faire renaître cette biodiversité. Vous avez plein d'actions possibles, que vous soyez particulier ou que vous soyez entreprise, j'en ai sûrement oublié, mais je remettrai tout dans les notes de cet épisode, comme ça vous aurez toutes les informations. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Magali ou moi-même ou d'autres membres de Bedikassa et Bedi Impact qui pourront tout vous expliquer avec grand plaisir. Donc c'était le petit instant pub. mais Magali, du coup, j'en reparlerai à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais, parce que je sais que ton temps temps est compté. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, mais aussi se lancer dans cette cause environnementale et sociale et intégrer ça dans leur création d'entreprise? Parce que tu dis qu'effectivement, les entreprises sont le principal acteur de cette biodiversité, de renouveler notre planète et de faire qu'elle soit le plus positive possible. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça quand on n'a pas été éduqué à ça?
Alors, il y a deux liens que vous pouvez aller regarder. Donc déjà, moi, si on arrive à le mettre en place, de toute façon, on ne va pas lâcher et on va le mettre en place. Donc, ça sera... on pourra vous faire un retour d'expérience et donc vous aider à le mettre en place aussi à votre niveau, puisqu'on est déjà sollicité par des entreprises pour savoir comment on met en place une société à mission avec une raison d'être, parce qu'il y a toute la partie design aussi derrière. Donc on est là-dedans. Mais vous pouvez regarder deux liens très intéressants. Le premier, c'est l'entreprise contributive. L'entreprise contributive, donc vous pouvez regarder l'entreprise contributive. Donc ça évoque le sujet de la raison d'être de l'entreprise, société à mission et comment... c'est une autre façon en fait de mettre en place ce modèle. Et la perma entreprise qui a fondé tout son modèle sur la permaculture et qui parle aussi de mettre en place ces modèles. Et en fait, derrière, il y a des personnes qui peuvent vous aider concrètement. Hein, parce que nous, on est une entreprise parmi tant d'autres, mais après, il y a des spécialistes dont c'est l'expertise en fait d'aider les entreprises à le mettre en place. Donc voilà, moi je m'en suis inspirée. Et pour la comptabilité triple capital, c'est nous on s'est inspiré de la méthode CARE, C-A-R-E, pour pouvoir le mettre en place aussi. Donc la méthode CARE, ça prend en compte le financier, le social, donc l'humain et l'environnement. Et donc très concrètement, par exemple, vous pouvez faire en sorte, c'est un exemple que je donne, vos employés, ils vont partir en vacances, s'ils partent en vacances en train plutôt qu'en avion, vous les récompensez d'un bonus et vous le mettez dans votre comptabilité. Voilà. Mais de la même façon, si vous faites les tri des déchets dans votre entreprise, vous pouvez le mettre dans votre comptabilité. Nous, on a fait aussi un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Biodiversio, qui œuvre pour créer des jardins écologiques sur les terrains des entreprises. Donc, il y a plein d'entreprises qui ont des terrains où il n'y a rien du tout. Eh bien, c'est génial parce que maintenant, il y a des salariés qui vont sur le terrain qui sont arborés. Il y a des pruniers, il y a des framboisiers, il y a des hôtels à insectes où ils voient des abeilles, il y a du miel. Eh bien, ils participent à cela et après, ils vont cueillir les framboises, ils vont cueillir... ils vont récolter le miel, c'est génial, quoi. Donc, comme incentive pour vos salariés, c'est top. Et puis, en plus, vous pouvez le retranscrire en comptabilité, quoi. Donc, faire valoir votre entreprise et comme ça, recruter des salariés et les garder. Parce qu'on sait que 50%, alors ça, c'est des chiffres de OpinionWay et du MEDEF, 50% des jeunes diplômés sont capables de faire un effort sur leur salaire si l'entreprise est engagée. Et dans le même temps, les salariés qui font partie des entreprises engagées, ils restent dans 60% des cas et ça atteint 80% si l'entreprise a un responsable RSE. Donc le turnover dans les grosses entreprises, c'est 2-3 ans. Ça permet de garder les personnes et de faire des économies et puis d'avoir un bien-être au travail et de valoriser les entreprises et la nature. Et l'humain. Donc, tout le monde y gagne. Voilà. Donc, il y a des choses très concrètes à mettre en place. On n'est pas au courant. Mais voilà, il faut le faire parce que c'est gagnant pour tout le monde, en fait. Économiquement, donc dans votre portefeuille et également pour le bien-être humain, quoi. Et puis pour l'environnement, surtout. Donc, moi, je te dirais une dernière phrase, oui. Alexane. C'est que, en fait, on est tous angoissés parfois par ce qu'on voit par les médias et par tous ces chiffres, on ne sait pas trop comment fonctionner, comment agir à notre niveau. Mais en fait, on peut tous agir par des petites briques, comme tu disais. Et moi, je pense que il y a quelque chose de Mark Twain, c'est une citation que j'aime bien, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».
Oui.
Et en fait, Bah oui, parce qu'on a ces biais et en fait on se limite nous-mêmes dans notre cerveau et on se dit non, mais nous on ne peut pas. Mais en fait, si, on peut, c'est juste qu'on se limite psychologiquement et notre propre limitation, c'est nous-mêmes, c'est pas à l'extérieur, c'est nous. Donc en fait, on peut tous œuvrer à notre échelle. Je ne dis pas demain de développer une ville régénérative avec plein de végétaux, mais à notre niveau, on peut déjà œuvrer dans notre habitat. À l'extérieur de notre habitat, on peut avoir des nichoirs et des mangeoires à oiseaux sur notre balcon, sur notre terrasse, dans le jardin public d'à côté. On peut être parrain, marraine d'un refuge pour biodiversité. On n'est pas au courant de ça, mais on peut le faire. Donc, on peut œuvrer dans la bonne direction. Voilà.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et tout ce que tu as dit est très concret. Je remettrai les liens du coup des deux entreprises, entreprise contributive et la Perma entreprise pour que tout le monde puisse les retrouver. Et bien sûr, ben, pour te contacter également, alors sans te harceler, mais si jamais les gens ont des questions,
Oui.
je pourrais faire le parallèle
LinkedIn.
aussi. Voilà, sur LinkedIn, Magali Boisseau et sur les autres réseaux. On remettra tous ces liens-là. Un dernier mot pour Bédi Impact, si tu as quelque chose à nous redire.
Bah pour Bédi Impact, vous pouvez très concrètement œuvrer et venir donc, adhérer à Bédi Impact et faire le lien avec tous ces scientifiques pour pouvoir mettre en avant des formations, des stages et des ateliers éco-citoyens. Et ça, vous pouvez du coup avoir ce rôle, ce qu'on appelle le game changer. Donc en fait, vous allez changer le game, ça vient des cartes, ça, à
Tu
l'époque.
l'expliques très bien sur le site de Baby
Ouais.
Impact d'ailleurs.
Voilà, donc ça, c'est vraiment un lien fort et essentiel pour bah, mettre en avant tous ces scientifiques et puis transmettre ces informations dans le cerveau des gens pour qu'on comprenne et qu'ensuite on agisse à d'autres niveaux. Voilà.
Merci beaucoup Magali. Donc voilà, cet épisode touche à sa fin, vous l'aurez compris. J'espère que du coup vous l'aurez apprécié. Je vous encourage à visiter le site, bien sûr Bed Impact, mais aussi le site du podcaston.org pour venir découvrir la centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Si vous avez aussi la possibilité, comme l'a dit Magali, de faire une promesse de don pour l'association Bed Impact, ben allez-y parce que vraiment notre planète en a besoin et nous en avons tous besoin. Et vous pouvez le faire soit directement via le site Bed Impact, soit en passant par le podcaston.org, puisque l'association y sera répertoriée très facilement. Donc, on compte sur vous et merci à tous pour votre fidélité. Merci Magali pour ta présence, pour ton temps. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.
Merci Alexandre.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.